Hey, même si on est l'été, ça brasse en politique, Pascal CV.
C'est une grosse journée. Il y en a des moins grosses. L'aujourd'hui, c'en est une importante.
Exactement. Le gouvernement du Québec qui a annoncé des nouvelles mesures concernant les chauffeurs à rabais. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé avant qu'on parle au ministre Benoît Charrette?
Pardon?
Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des nouvelles mesures? T'es-tu pas loin?
Excuse-moi, tu me prends à bulle
pour pas point, de trouble.
Pour les chauffeurs à rabais, d'abord, tout conducteur de poids lourd ontarien qui veut venir ici au Québec et qui possède moins de 2 ans d'expérience va devoir passer un examen pratique pour ensuite avoir son permis auprès de la SAAQ. Et si l'individu échoue 2 fois aux examens pratiques, il va devoir suivre la formation que doivent passer les personnes qui souhaitent obtenir un permis de classe 1 là, au Québec. Et ça, ça a été mis en place le 15 décembre dernier. Bon, le ministre des Transports qu'on a au bout du fil et à qui on va parler dans quelques instants, indique que c'est une mesure qui est temporaire jusqu'à temps que l'Ontario puisse démontrer le resserrement de ses propres mesures de formation. Mais nous, on va avoir certainement un contrôle ici au Québec. Voici quelques mesures.
Benoît Charrette est avec nous au bout du fil. Monsieur Charrette, merci beaucoup de participer à l'émission d'Enjase.
Bonjour à toute l'équipe. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Monsieur Charrette, ça va toucher combien de chauffeurs environ par année, ça, le resserrement des mesures des chauffeurs qui partent de l'Ontario et qui veulent justement conduire au Québec?
Bon, en fait, la mesure que vient tout juste de décrire parfaitement votre collègue touche essentiellement 375 personnes là, par année. C'est la statistique que nous avons là dans nos registres. C'est un pas certainement dans la bonne direction, mais c'est une mesure qui est accompagnée de plusieurs autres mesures. Mais oui, ça va nous aider à améliorer notre bilan sur nos routes, on en est convaincu.
Parlant de d'autres mesures, qu'est-ce qu'il y en est des contrôleurs routiers? Je sais qu'on est en train de les armer. C'est quel pourcentage à l'heure actuelle qui est sur la route justement pour nous protéger?
Je n'ai pas de pourcentage à vous communiquer cet après-midi, mais mois après mois, le nombre augmente. On se souvient, là, suite aux décisions qui ont été prises par le gouvernement du Québec d'armer nos contrôleurs routiers, c'était une décision tout à fait légitime. Il fallait par contre penser à les former avant de les remettre intégralement là sur nos routes. Donc, la formation se poursuit. Donc, mois après mois, il y a de nouvelles cohortes qui s'ajoutent et c'est un des volets là pour lequel on accorde beaucoup d'importance et qui fera aussi une différence là au cours des prochains mois, des prochaines années, qui nous aidera également à améliorer notre bilan. Vous avez mentionné à travers votre collègue également la nouvelle formation qui est maintenant obligatoire pour les personnes qui souhaitent obtenir un permis de classe 1. Il y a quelques jours, tout juste, on rendait aussi une nouvelle mesure en application, c'est-à-dire la tolérance zéro pour les nouveaux conducteurs de classe 1 par rapport à l'alcool, un petit peu comme ça se fait pour les conducteurs là, de classe 5. Bref, c'est plusieurs mesures qui s'ajoutent. On a un bilan qui s'améliore année après année, mais avec des lacunes là, que l'on identifie, que l'on souhaite corriger là, à travers toutes ces mesures-là.
Vous êtes ministre des Transports au Québec. Le fédéral traîne du pied un peu dans la mesure. On a l'impression de devoir se battre. Il y a des survivantes ou encore des proches de survivants qui sont allés parler à l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont essayé autant sur le palier fédéral que le palier provincial. Monsieur Charrette, comment on s'est rendu là au Québec, puis entre autres dans le transport?
Vous avez raison de mentionner qu'il y a plusieurs intervenants au dossier. Nous sommes en communication autant avec le gouvernement ontarien qu'avec le gouvernement canadien. On a une certaine latitude, on a une capacité d'agir de notre côté sur certains aspects, mais il y en a d'autres qui nous échappent. Je vous parlais tout à l'heure de 375 demandes qui nous proviennent de l'Ontario. Il y a bien davantage de conducteurs ontariens qui, jour après jour, traversent nos routes. Donc, il y a des lacunes au niveau de leur formation. Et d'ailleurs, la mesure qui est annoncée aujourd'hui fait suite directement à un rapport ontarien de leur propre vérificateur général qui laisse entendre des lacunes importantes. C'est un rapport accablant, je pense que c'est le bon mot, par rapport à la formation qui se fait, qui se donne en Ontario, par rapport aux moyens en Ontario de contourner cette formation-là avec des formations de complaisance notamment. Donc, on est en communication avec le gouvernement ontarien là pour les sensibiliser sur cette question-là. Au niveau du gouvernement canadien, c'est davantage au niveau fiscal. Bref, oui, il y a des leviers que nous avons. Nous les utilisons, nous essayons là, d'intervenir sur ce qui est réellement de nos compétences, mais il nous faut avoir une meilleure collaboration là, du gouvernement ontarien et du gouvernement fédéral là, pour s'assurer de corriger toutes les lacunes qui sont pourtant bien identifiées.
Vous allez peut-être me trouver extrémiste, mais moi, comme mesure, je mettrais des contrôleurs routiers à la frontière Ontario-Québec, puis je les ferais tout passer par la balance, puis je leur ferais tout un test de conduite, puis ceux qui ne le passent pas, ciao bye en Ontario. Pourquoi on ne fait pas ça?
On a une surveillance accrue, effectivement, à la frontière. Il y a eu des patrouilles avec la Sûreté du Québec. Lorsque l'entièreté de nos équipes au niveau des contrôleurs routiers sera armée, vous allez voir davantage d'interventions.
Ça va être quand, ça? C'est quoi le délai?
D'ici une année, là, on devrait avoir tous nos effectifs dûment formés et armés sur nos routes. Mais pour ce qui est des conducteurs en provenance de l'Ontario, mais également les travailleurs étrangers temporaires, vous allez voir là, à l'automne prochain, donc dans quelques mois, de nouvelles mesures seront certainement proposées sur la question des permis étrangers, des permis internationaux. Là aussi, nos statistiques démontrent qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là pour renforcer notre bilan routier. Donc, la table des partenaires là, qui a aussi été confirmée ce matin.
Ça, vous parlez des chauffeurs individuels dans leur voiture?
On y va par étapes. Là où les accidents se produisent en plus grand nombre ou avec à tout le moins des impacts plus significatifs, c'est réellement les camionneurs ou à tout le moins le transport lourd. Donc, le premier rapport que l'on attend cet automne, c'est à cet égard-là. Mais par la suite, on va toucher le transport de personnes et ultimement les voitures passagers. Mais oui, il y a une surreprésentation de détenteurs là, de permis internationaux ou étrangers dans notre
dans quel bilan, horizon? Dans quel horizon les voitures uniques, les chauffeurs uniques là, de voitures? Parce que ça ressort énormément chez les auditeurs là, des problématiques.
Oui, mais moins problématique au niveau des statistiques là, en termes d'accidents. Et si on devait malheureusement parler de décès également, mais on y va par étapes, parce qu'on peut pas tout modifier en même temps. Donc, c'est réellement les poids lourds à l'automne, ensuite les véhicules davantage là, de transport de personnes, que ce soit autobus ou autre, et ultimement la fameuse classe 5 que vous et moi là, détenons probablement là, pour conduire notre véhicule personnel.
Ça veut dire la classe 5, quoi, encore une bonne année et demie avant qu'on s'y attaque?
Bon, jusqu'à maintenant, on a plutôt une bonne moyenne. À chaque mois, il y a une nouvelle mesure qui est confirmée. Donc, je suis assez confiant que l'on puisse bouger rapidement à ce niveau-là. Il faut s'y attaquer. Autant pour les poids lourds que pour les voitures passagers. Il y a une surreprésentation, là, je le mentionnais, au niveau de nos statistiques d'accidents. Il faut savoir que beaucoup de ces permis-là toutes classes confondues sont délivrées dans des pays ou dans des législations où il n'y a pas de reconnaissance de diplôme. Dans certains cas, on sait, par exemple, je ne veux pas nommer de pays pour pas en exclure d'autres d'emblée, là, mais on sait qu'une formation est équivalente. On sait que les gens qui détiennent ces permis-là ont une formation adéquate pour rouler sur nos routes. Ce n'est pas le cas, par contre, de tous les pays. Et ne serait-ce, sans lien avec la bonne volonté des individus, une personne qui nous arrive d'un pays où il n'y a pas de neige, où il n'y a pas de glace, où il n'y a pas de verglas sur nos routes, n'est pas forcément outillé pour faire face à ces aléas de la météo. Donc,
ni d'entretenir la voiture aussi, en conséquence, il y a aussi.
Donc, des gens qui sont mal préparés là, pour entamer leur voyage, j'avais parfaitement raison. Donc, ce sont tous des éléments là, qui sont regardés actuellement. Aujourd'hui, on n'avait pas besoin de modifications législatives ou réglementaires pour apporter la modification là, sur les permis ontariens. Donc, c'est applicable dès aujourd'hui. Les recommandations qui nous seront faites par la table des partenaires vont probablement, tout indique là, qu'elles vont nécessiter des changements réglementaires et législatifs parce qu'on va s'attaquer davantage au code de la sécurité routière. Mais ce sont des nouvelles orientations là, qui seront dévoilées l'automne prochain. Il faut savoir qu'à travers tout ça, on a aussi demandé au coroner là, de tenir une enquête publique sur la question. Donc, le coroner sera sans doute intéressé à nous faire des recommandations. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on avance dans la bonne direction, très certainement. Mais il y a d'autres mesures qui sont à venir au cours des prochaines semaines, des prochains mois à cet égard.
C'est heureux de vous entendre sur ces formalités-là. Honnêtement, tout ce qui est permis de nouvel arrivant et tout ça, des fois, on peut se poser la question, quand on voyage un peu, de se dire « Ouh, c'est pas du tout la même chose, là. » Même des permis africains, moi, je vais me permettre de le nommer. Les conditions routières, la façon dont on conduit, c'est pas du tout la même manière. On rend nerveux nos nouveaux arrivants, même quasiment en octroyant ce permis-là, même si ça peut être très, très pratique au quotidien. Mais si on retourne à la nouvelle du jour, à l'avancement du jour sur le camionnage, donc Québec qui adopte de nouvelles mesures contre les chauffeurs au rabais, j'aurais une autre question là-dessus pour vous, parce qu'en ce moment, il y en a tout de même qui circulent sur nos routes, et ce, depuis plusieurs semaines. Ça peut être même des gens avec qui il y a déjà eu des accidents et des antécédents. Est-ce qu'on est capable de les tracer ici au Québec?
Seul, non. Comme je vous disais, il nous faut davantage de nos contrôleurs routiers sur les routes. Ça, c'est une question de temps avant d'y parvenir. Mais quand je vous dis seul, non, c'est qu'à partir du moment où une personne habite, par exemple, en Ontario, n'a pas l'intention de déménager au Québec, elle peut très, très bien circuler sur nos routes avec un permis ontarien. Donc, nous n'avons aucun contrôle sur la qualité de la formation qu'a obtenue cette personne-là. C'est là où il y a un travail qui se fait avec mon homologue ontarien. C'est en droite ligne avec un rapport qu'ils ont eu de leur propre vérificateur général sur la question. Donc, je les sens interpellés, je les sens désireux d'apporter des modifications. C'est le genre de décision sur laquelle je n'ai aucune emprise. L'Ontario doit bouger sur ces questions-là, s'assurer d'offrir une meilleure formation à ses conducteurs, parce que bon, la loi permet à une personne qui vient de l'Ontario, d'une autre province ou des États-Unis de rouler au Québec. Donc, je n'ai pas la possibilité d'empêcher cette personne-là d'emprunter nos routes. Mais je vais sensibiliser mon homologue sur l'importance que cette personne, par contre, ait la formation adéquate et qu'elle ne vienne pas constituer une menace sur nos routes en les empruntant, là. Donc, on a des limites. On les reconnaît d'emblée. On agit sur ce sur quoi on a une réelle emprise. Et pour le reste, c'est de la collaboration avec nos partenaires, là, pour s'assurer qu'il y ait des changements qui soient apportés.
Pour rappel, on parle avec Benoît Charrette, ministre des Transports et de la Mobilité durable pour le gouvernement du Québec. Monsieur Charrette, êtes-vous écœuré des spécialistes puis des experts du troisième lien comme votre collègue Bernard Drainville?
Je souris en voyant les titres, mais je peux volontiers commenter la nouvelle. Par contre, le spécialiste qui était interviewé, je ne remets pas en question sa formation, ses compétences, mais il a oublié ou omis des choses très, très importantes dans l'analyse.
Comme quoi?
Qu'il faisait. D'aucune façon, nous n'avons dit ou nous attendons à ce que le privé réalise sans apport du gouvernement du Québec cette infrastructure-là. Elle sera importante, elle va assurément engager des dépenses importantes, donc ce n'est pas qu'à travers qu'un simple péage qu'on arrivera à la payer. Et c'est là où son analyse, à mon sens, était peut-être un petit peu simpliste. Il y aura une contribution financière du gouvernement du Québec pour la réalisation du troisième lien. Le privé va nous aider à deux niveaux sur la façon de construire cette infrastructure-là, mais également sur la façon de la financer. On n'a jamais dit que le privé va contribuer seul au financement de l'infrastructure. Autrement, le péage serait à des coûts exorbitants et ce n'est pas du tout notre intention. Donc, je ne dis pas que je suis tanné des spécialistes, mais j'aime bien lorsque les spécialistes prennent en compte toutes les variables.
Oui, c'est ça. Nous, on est un peu tanné à Québec là, de jaser de troisième lien, puis juste en jaser. On aimerait vraiment ça qu'il se réalise. Et parlant justement de ça, ça doit être frustrant pour vous d'avoir pris un dossier comme ça, mené par François Legault et Geneviève Guilbeault, que jamais abouti. Tu sais, je sais que c'est pas dans vos habitudes de parler contre vos prédécesseurs, mais on se le cachera pas, ils n'ont pas bien joué dans ce dossier-là.
C'est un dossier qui n'est pas simple et je pense que même la première ministre le reconnaît d'emblée. Elle l'a mentionné sur plusieurs tribunes. Il y a eu plusieurs avancées et reculs qu'on peut expliquer de différentes façons. Mais oui, on a une crédibilité à regagner. Mm-hmm. Et là, on a une approche là, qui est renouvelée, justement avec la part du privé, ce qui n'était pas considéré auparavant. On a une approche renouvelée quant au tracé lui-même aussi, parce qu'autrement, on s'en allait avec un tracé qui déplaisait autant sur la rive nord que sur la rive sud. Donc, c'était en rien un projet qui était gagnant. Là, on a un projet qui est davantage à l'est, qui est largement supporté par plusieurs intervenants, autant sur la rive nord que sur la rive sud, qui va nous amener enfin à sécuriser notre réseau routier dans le secteur. Et pas juste, moi j'entends des critiques, là, je suis moi-même élu de la couronne nord de Montréal, et des fois je me fâche à entendre le jugement un peu facile que j'entends. Bon, plusieurs ne connaissent pas la région concernée d'une part, ça faut le mentionner.
Ben c'est ça, on est un peu tanné que Montréal joue dans nos plates-bandes, là, je vais vous le dire comme
pas,
ça.
Et pas que Montréal, je vais vous avouer, j'entends des critiques là, qui parviennent de différentes régions, donc c'est à nous et à vous de faire un petit peu de pédagogie. Moi, je n'ai aucun mal à le faire, ça ne servira pas que les gens de Québec ou de Chaudière-Appalaches, c'est tout l'Est du Québec qui va bénéficier de cette infrastructure-là. Et ce que j'ai eu à répéter à plusieurs reprises, nous avons deux ponts actuellement dans la région de Québec, trois ponts seulement entre la Gaspésie et Montréal, ce qui n'est certainement pas de trop. Et des deux ponts, les deux ponts de la région de Québec, les deux ont des enjeux, que ce soit au niveau de leur âge, que ce soit au niveau de leur capacité portante, que ce soit sur le type de véhicule qui peut y circuler. Je ne dis pas qu'ils sont en mauvais état au point de nous faire faux bond dans les prochaines années, mais lorsqu'on a un pont qui a 110 ans et que l'on sait que la prochaine infrastructure, le troisième lien, donc, va se construire sur une dizaine d'années, donc le pont de Québec va avoir 120 ans à ce moment-là, il n'y a pas un spécialiste, on parlait de spécialiste, j'aimerais bien ça en entendre un qui dit que les ponts au Québec sont éternels. Donc, faut penser à l'avenir, faut penser à plus long terme. On sait que ça prend du temps de développer des infrastructures comme ça. Et malheureusement, au Québec, on a pris trop de temps à remplacer des infrastructures que l'on savait pourtant en fin de vie. Dans la région de Québec, on a juste à penser au pont de l'île d'Orléans.
En effet.
On a beaucoup, beaucoup trop tardé à prévoir son remplacement. Et la conséquence, on agit dans l'urgence, on paie beaucoup trop cher et on continue à investir dans l'intervalle des sommes colossales pour maintenir en vie l'infrastructure existante avant de la démolir. Donc, si ce pont-là, on avait pensé à son remplacement il y a plusieurs années, donc au bon moment, on n'en serait pas là aujourd'hui. Puis on a l'équivalent dans la région de Montréal avec le pont de l'île aux Tourtes. Donc, faut éviter un scénario semblable avec les deux ponts actuels. Et encore une fois, j'insiste, ils sont en état de fonctionner. Ils seront là pour plusieurs années, mais on sait qu'ils ne sont pas éternels. Et on sait que les deux ponts actuels ont des limitations importantes qui nuisent à la mobilité dans la région. Donc, je n'ai aucun mal à répéter ça à nos amis de Montréal ou ailleurs au
Monsieur
Québec.
Charrette, allez faire le porte-voix de la région de Québec dans la région de Montréal. Ce que vous venez de dire, c'est de la musique à mes oreilles. Ça fait 4 ans que je fais de la radio, ça fait 4 ans que je dis le pont de Québec, il est vieux, il est tout rouillé, faut penser de le remplacer avant qu'il tombe. Je disais la même chose pour le pont de l'île d'Orléans. Là, je vais lancer une petite flèche à la CAQ. Je pense que vous avez manqué une couple d'années sur le pont de l'île d'Orléans. Mais là, si vous pouvez ne pas manquer d'années pour le pont de Québec...
Moi, j'accepte toutes les critiques sans problème, mais le pont de l'île d'Orléans, c'est nous qui l'avons mis en planification puis en réalisation. On n'est pas là depuis des décennies, là. Puis une infrastructure...
Oh, vous êtes en train de me parler des libéraux qui sont traînés et bottines là-dessus? Ben voyons donc!
Ben, pas uniquement au niveau de notre maintien d'actifs sur nos routes, malheureusement. Puis c'était probablement d'époque, puis je vous dis pas qu'on aurait fait mieux à l'époque, mais pendant des années et des années, pour ne pas dire des générations, on ne se souciait pas du maintien d'actifs.
Ouais.
On n'en parlait pas, on ne les budgétait pas, ces travaux-là. On pensait que par miracle, les infrastructures allaient être éternelles. Mais le problème au Québec, la plupart de nos infrastructures ont été construites au même moment. Donc, elles vieillissent au même moment. Elles ont, pour la plupart, 60, 70, 80 ans lorsqu'il est question de nos routes, nos écoles, nos hôpitaux. Donc, c'est clair qu'il y a un défi excessivement important à relever à ce niveau-là, mais ne reproduisons pas la même erreur. N'attendons pas que le pont de Québec ou le pont Pierre-Laporte deviennent trop vieux et qu'on doive trouver une solution dans l'urgence par la suite. Et c'est le projet que l'on propose. Et on a enfin, je pense, la bonne façon de l'anticiper, cette suite-là, avec cet appel à l'international là, d'intérêt qui est en cours présentement. On a déjà des joueurs qui ont levé la main. Donc, je pense qu'on a enfin, je veux le dire comme ça, la bonne toune pour garantir le succès de l'opération.
Monsieur Charest, j'ai votre attaché de presse qui m'écrit, dit « Hey, il y a d'autres entrevues, faut qu'ils se sauvent. » On reprend cette belle conversation. Merci d'avoir donné autant de temps à l'émission dans Jazz à Boulevard 102.
Merci à vous. Toujours un plaisir. Une belle fin de journée.
Cool. Merci. Au revoir.
Merci.
Benoît Charest, ministre des Transports. Donc, Pascal, c'est intéressant. On sait qu'il y a un plan d'action en matière de camionnage lourd. Oui. C'est la première étape aujourd'hui.
Je les trouve dégourdis comparativement au fédéral.
Vraiment.
Ils ont moins les mains liées ou encore ils se donnent une possibilité d'agir. Mm-hmm. Mais là, je suis fière du gouvernement.
Oui, exactement. On sait également qu'on va s'attaquer. Plus on comprend bien que le calendrier électoral, et là, c'est si jamais la CAQ est réélue, là, on s'entend, mais qu'on s'attaquerait quelque part fin automne, début hiver aux chauffeurs de classe 5 internationaux. Fait que ça aussi, c'est très intéressant à savoir. Puis, pour ce qui est du troisième lien, écoudonc, ça aurait pris un discours de même. Il y a 8 ans.
Oui, là, c'est sûr qu'on est peut-être un petit peu en retard là-dessus. Après, c'est pas le ministre des Transports. Il n'a pas toujours été en place.
Ben non, il vient d'arriver comme ministre des Transports.
À ce moment-là.
Ça aurait pris un leadership comme ça. Hein? Ah, leadership de François Legault pour la capitale nationale. Oh, boy.
Avant même la CAQ. Là,
un gros zéro. Ouais. Oh non, un gros zéro pour François Legault en capitale nationale. J'ai beaucoup de respect pour l'homme, mais je m'ennuie pas de lui en tant que premier ministre. Bon, Pascal, il faut faire une pause parce qu'on vient de faire 65 minutes de radio sans que nos annonceurs puissent. Puissent vous proposer leur excellent produit parce que placé à Boulevard 101, placé à Leclerc Communication, c'est payant. Et on revient par la suite, on va tomber dans le dossier itinérance avec Josiane Mondou, intervenante pour l'organisme Droit de Cité.
Jusqu'à 14h.